Alors, je débute aujourd'hui une courte série d'entrevues qui sont, je dirais, à caractère personnel, mais en même temps qu'on va partager ensemble, parce que vous le savez, j'ai des problèmes de poids, je contrôle mal mon poids, mais la réalité, c'est que j'ai un manque de volonté. C'est ça, hein? Il faut bien s'entendre. Et Pierre est passé par là, à peu près dans les mêmes niveaux que moi, et t'as choisi, toi, la chirurgie bariatrique. Mm-hmm. Et ça a réglé tes problèmes de bien des façons. Mais le poids est un problème majeur. Puis des fois, assis devant la télé, je vois des annonces de, par exemple, de pilules, d'aide à maigrir, mais qui semblent faciles. Puis d'un autre côté, il y a l'opération. Puis d'un autre côté, ben, il y a des gyms qui sont pas ouverts, là, ou ben, il y a des...
Peloton, l'annonce de Peloton.
C'est quoi ça?
Ça, c'est le bicycle avec la madame qui donne des cours.
Donc, puis... je devrais être en mesure d'être capable de me prendre en main. Fait que ouais. Je suis tout dans... Comment, à mon âge, passé un peu 50 ans, on va être capable de revenir avec une santé moins précaire que celle actuelle. Pour en parler, dans cette première étape d'entrevue, pour en parler avec nous, elle est chercheuse et pédiatre, professeure associée à l'Université McGill, présidente fondatrice du Réseau d'action en santé cardiovasculaire, Dr Julie Saint-Pierre. Dr Saint-Pierre, bonjour.
Bon matin.
Premièrement, je tiens à m'excuser du léger retard. Là, je suis un gars très indiscipliné, autant dans mon travail que dans ma vie personnelle.
Il n'y a pas de problème.
Ça part mal. Vous publiez aujourd'hui un livre qui va s'intituler « Redonner la santé à toute la famille, l'approche 180 contre l'obésité ». Fait que ça a de l'air à m'intéresser, mais je comprends pas. Qu'est-ce que c'est exactement?
Ben, en fait, c'est un recueil de différents conseils là différents trucs qu'on a appris pendant de nombreuses années auprès des jeunes qu'on soigne, que ce soit à Saguenay, à Québec ou à Montréal. Et ça faisait des années que j'avais des parents qui me disaient, ou des grands-parents, où est-ce qu'on retrouve toutes ces bonnes informations-là ensemble? Puis j'avais un malaise, j'étais pas capable de leur référer un livre où est-ce qu'il y avait toutes les choses importantes qu'on devrait savoir pour garder une santé cardio-métabolique, disons-le comme ça, puis être capable de pouvoir avoir une qualité de vie qui est exempte de maladies.
Mais là, vous parlez donc, des jeunes, entre autres. Donc, c'est quel groupe d'âge?
Ben, vous en faites partie parce que, on a des parents, on a des grands-parents qui se soumettent constamment aux conseils qui sont là et qui nous témoignent, en fait, que leur santé s'améliore. Donc, ça va de la motivation. Je vous écoutais tantôt, ça me faisait mal au cœur de vous entendre. Ça me touchait parce que je me disais, c'est pas drôle de souffrir, de vouloir être plus en santé, puis de penser qu'on manque de volonté. Vous manquez pas de volonté. Vous avez peut-être pas eu la bonne éducation à la santé. Et ce livre-là, c'est le but, c'est de faire une éducation à la santé, de donner un espoir aux gens qui souffrent de cette maladie-là, pour qu'ils puissent enlever des complications.
Oui, mais ça, là, cette éducation-là, moi, ça fait longtemps que je soulève cette question-là, puis je me souviens de l'avoir fait, entre autres, puis d'avoir peut-être tourné ça trop vers les autres, mais puis même pas à mon niveau personnel. Vous savez, je suis père de deux garçons, c'est deux grands flambous qui traînent dans mon sol là, de 18 et 20 ans, mm-hmm. puis qui ont fait du sport de haut niveau, mais où j'étais, étant monoparental ou séparé,
oui.
incapable de dire qu'est-ce que je cuisinerais bien, qui serait bien ajusté à leur niveau d'athlète puis de santé de leur âge.
Ben, vous allez voir, en feuilletant le livre, c'est ça, c'est que vous allez voir, ça soutient plein de gens qui ont vécu votre situation. Moi, je l'ai vécu à une époque de ma vie aussi, puis il y a moyen, avec un peu plus de planification comme parents, de bien accompagner nos jeunes au niveau alimentaire, puis puis c'est de les faire participer, c'est d'avoir du plaisir avec eux autres, mais c'est aussi de mettre les objectifs à notre niveau. Si vous avez jamais cuisiné, ben il faut commencer avec des choses qui sont simples. Puis en fait, on explique là-dedans comment le nouveau guide alimentaire canadien et peut être rendu encore plus simple que ce qu'on voit sur l'image. Et on aide les parents justement avec la planification. On a créé un outil qu'on partage dans ce livre-là qui est une pyramide d'alimentation méditerranéenne de santé durable, où est-ce que le parent va sauver du temps finalement, va sauver de l'argent, puis ils vont avoir l'impression d'offrir une meilleure qualité de vie à leurs enfants.
Est-ce que vous, avec le temps, avec les années, est-ce que nos jeunes, si on prend nos jeunes, là, mettons justement oui. de 18 à 24 ans, là, mettons peut-être que j'ai pas la bonne cible exacte, mais est-ce oui. qu'ils sont plus gros que nous l'étions, ou ils sont plus réveillés, plus allumés? Moi, je les trouve quand même plus allumés que moi, au même âge, sur faire attention, les protéines, ce qui est des gras trans ou ces affaires-là.
Ben, je vous dirais qu'ils sont peut-être plus allumés, mais est-ce que la pandémie d'obésité diminue? Non, elle ne fait qu'augmenter. On sait qu'il y a probablement un bond de 5 points là que le CDC nous a témoigné juste en janvier là 2021 de pourcentage d'augmentation d'obésité. Je pense que les jeunes sont un peu plus sédentaires que nous l'étions. Il y a beaucoup plus de consommation d'écran. Nous, en temps de pandémie, on s'est amusé avec notre infirmière à Montréal à regarder, avec leur permission, bien sûr, les temps de téléphone dans une journée. Et notre moyenne, en plus de l'école à la maison, c'était autour de 8 heures de consommation d'écran. Fait que c'est sûr que t'as beau être plus allumé, plus informé sur l'alimentation puis les saines habitudes de vie, si tu passes 8 heures sur ton téléphone, ben il te reste pas grand temps pour cuisiner puis pour aller dehors. Donc on a remplacé certaines bonnes habitudes par des moins bonnes.
Est-ce que les critères de l'obésité, par contre, auraient changé? Tu sais, des fois, je trouve que il y a des gens qui sont catégorisés dans les gens obèses morbides, là, il y a plusieurs catégories, mais qui sont en réalité avec un surplus de poids, oui, mais qui est pas exagéré. Je trouve que c'est un peu aussi comme l'alcool. Tu sais, des fois, avec Éduc'alcool, je trouve que, tu sais, à 4 verres, t'es un alcoolique incorrigible. Je trouve qu'il exagère. Mais pour l'obésité, c'est un peu la même affaire, j'ai l'impression.
Ben l'obésité là, ça fait tellement longtemps que c'est étudié, puis surtout à Québec là, vous avez la chaire mondiale d'obésité là avec le professeur Després. Tu sais, je pense qu'il faut qu'on arrête de se questionner sur les outils qui ont été étudiés, révisés, présentés. À un moment donné, il faut se rendre à l'évidence. Il y a des marqueurs, il y a des outils cliniques qu'on utilise. Bien sûr que le tour de taille est beaucoup plus important en termes de mesure que le poids, hein. Donc, puis il y a des marqueurs, des moyennes, si vous voulez, en fonction de notre ethnicité à travers le monde. Donc, malheureusement, oui, des fois, vous allez me dire, ben voyons donc, tu sais, il a l'air d'avoir des gros os, cet enfant-là, c'est tout, là, ou ça va passer à la puberté, mais non, malheureusement, on a des barèmes, on a des qui ont été étudiés vraiment depuis très longtemps. On le sait que la cellule, elle est modifiée, la cellule graisseuse. Puis plus que ça, ce qui a apporté une certaine confusion, puis je pense que c'est là où est-ce que vous allez comprendre pourquoi là les gens se sont tant questionnés. On parle pas de diversité corporelle, là. On parle de maladie avec des barèmes internationalement prouvés. Mais dans les dernières années, on avait des groupes de patients dans les études qui étaient des personnes souffrant d'obésité, mais avec des profils cardio-métaboliques. Quand on faisait le bilan chez le docteur, là, c'était normal. Donc, les gens ont dit, ben voilà, c'est pas une maladie. Donc, ça, c'est un 10 à 30 % de gens. Sauf qu'on a continué à les suivre dans le temps. Puis, dans le temps, ils finissent tous par développer des complications. Donc, on s'est dit, c'est uniquement des gens qui sont dans un stade précoce de la maladie et, nos barèmes, ils continuent d'être bons. Ceci dit,
mais comment,
okay, là, on a parlé bien gros du poids, là, le mot qu'on n'aime pas, mais ce qui est important de savoir, c'est que c'est pas... ce qu'on dit dans ce livre-là, là, c'est bon pour tout le monde. Moi, j'en parle, mon père... gros comme un clou, hyper actif. Il a fait sa crise de cœur comme tout le monde.
Oui.
Pas comme tout le monde, mais comme bien des gens à 40 ans. Puis son défaut, c'était qu'il mangeait mal.
Donc, c'est pas toujours une question de poids et de tour de taille, mais ça fait partie des facteurs. Puis Jean-Pierre Després vient nous voir quand même régulièrement. Ici, nous,
oui.
on est amis et on est fans un peu de ce qu'il fait. Puis, tu sais, il est découragé de me voir, pauvre Jean-Pierre, mais c'est... Tu sais, vous parlez de maladie depuis tantôt. J'ai pas l'impression d'être malade. J'ai l'impression d'être lâche, puis de pas mettre les efforts, puis de faire les bons choix au bon moment. Puis
ben,
je vous le dis, c'est la réalité.
Ça c'est ce que le commerce puis l'industrie vous a rentré comme message depuis plus de 50 ans. C'est malheureux parce que dans le fond, un exemple, les commandites sportives. C'est sûr que ces jeunes-là peuvent manger tout ce qu'ils veulent tant qu'ils vont s'entraîner. Ça paraîtra pas, mais la journée où est-ce qu'ils vont arrêter de s'entraîner, puis ça, il y a un parallèle à faire. Hein? Vous êtes dans la ville du football là à Québec, au Québec. Les joueurs de la NFL ont commencé à décrier aux États-Unis la situation, puis ils disent on n'est pas bien éduqués à la santé, puis quand on finit notre carrière, on est plus diabétique, on est plus cardiaque que bien d'autres gens dans la société. Et en fait, c'est que tant que tu regardes ces idoles-là, puis que tu vois qu'ils font plein de sports, puis que ça change rien ce qu'ils mangent, ben toi, tu t'es assis dans ton divan, tu regardes, puis tu dis, ben je suis bien lâche. Puis ça, c'est là où est-ce qu'il y a l'erreur. Il y a des petites choses qu'on peut changer, une à la fois, puis c'est ça qui marque des points.
Oui, mais on fait des mauvais choix. Je veux dire, c'est bien beau, là, mais on fait des mauvais choix pour nos repas, pour nos... tu sais, on bouge, fait qu'on s'en rend pas compte, vous le dites, mais après ça...
En fait, c'est qu'on se fait trop plaisir. On est dans le plaisir tout le temps, puis plus on est dans le plaisir, plus on en veut. Donc, on explique dans ce livre-là que c'est normal de se faire plaisir, puis on doit se faire plaisir autour de la table. Mais il y a des occasions spéciales, puis ça, c'est pas à tous les jours.
Il y a une auditrice qui nous écrit, Dr Saint-Pierre, elle dit ceci. Mon fils de 14 ans mesure 5 pieds 10, pèse 250 livres. Est-ce que cela veut dire que sa situation va devenir problématique à l'âge adulte? C'est ce que j'ai compris et ça m'inquiète beaucoup.
Ben, c'est ça, mais sauf qu'il faut pas y en parler. Ou faut le faire de comme parent. On a une responsabilité, c'est sûr. Puis si on a la bonne éducation comme parents, on prend des décisions tout simplement. C'est nous autres qui fait l'épicerie. C'est nous qui choisissons les menus qu'on fait dans la journée. Donc, si on les planifie bien, on va améliorer la santé de nos jeunes sans les stigmatiser puis sans leur parler de leur image corporelle. Ça, c'est une erreur. Il ne faut pas la faire.
Oui, mais quand nos enfants, là, moi, là, j'ai un de mes gars, je me souviens, jeune, il m'avait écrit sur une liste, les trois affaires qu'il aimait le plus, c'était jouer au hockey, jouer au baseball puis manger. Fait que,
Mais on peut bien manger puis avoir du fun à bien manger.
Oui.
Puis si vous aimez ça, manger une poutine là le vendredi soir avec votre gars, continuez de le faire. Mais les autres jours de la semaine, ben forcez-vous pour avoir un menu qui est plus diversifié, puis vous allez découvrir des choses que vous allez aimer.
Bon.
On répète les mêmes recettes tout le temps. Il faut des fois le sortir de notre zone de confort, avoir un peu plus de créativité. Puis c'est ce que le livre apporte aux parents, des idées, des nouvelles façons de rendre ça plus léger. Il y a des gens qui font de l'anxiété sévère là à faire à manger à leur famille. Hein. C'est de la pathologie. Là. On est rendu là, mais on est dans une société de performance. l'enfance. Puis les parents, ben malheureusement, on est toujours en train de se comparer. Les réseaux sociaux, on regarde ce que l'autre il a posé son menu, ça ressemble à un 5 étoiles. On essaye de faire ça, on n'a jamais cuisiné, on n'est pas capable. Fait que vous voyez, on se crée encore une autre anxiété et il faut pas faire ça. Si on planifie, on économise puis on mange mieux.
Mais il y a des choses qui mentent pas, puis écoute, moi, là, à 52, 2,80, ça marche pas, là, tu sais, puis il y a des choses qui mentent pas, je l'ai vu, je suis allé skier à Tremblant, puis je descendais bien plus vite que toutes les autres, là, tu sais, j'ai attiré dans le bas de la côte. Alors, vous êtes la première, docteur Saint-Pierre, à m'aider, à m'aiguiller. Alors, est-ce que, dans mon cas, parce que j'ai comme abandonné, là, est-ce que je m'achète des pilules pour maigrir, est-ce que je applique pour la chirurgie bariatrique, ou ben j'abandonne tout simplement puis je reste gros?
Mais on se connaît pas vraiment, là, je vous ai pas vu.
Mais
tous
les jours.
C'est une question, en fait. S'il vous plaît, n'allez pas vers des pilules qui font maigrir. Quand il y a 900 gènes qui expliquent cette maladie-là aujourd'hui, il y en aura jamais de cure miracle. Puis moi, je me souviens à ma défense de thèse de doctorat, c'est docteur Després, je pense, qui m'avait posé la question. Je m'en souviens comme hier, il avait dit, ouais, mais c'est quoi le plus important dans la vie pour aider ces gens-là concrètement? Puis je me souviens, une fille de génétique, là, j'avais répondu, ben c'est l'environnement, là, tu sais, faut travailler sur ce sur quoi on a du pouvoir et pas sur ce qu'on peut pas modifier, c'est-à-dire notre génétique. Donc oui, réduire un peu nos temps d'écran, être capable de mieux dormir, être capable de mieux faire à manger, c'est toutes des choses qui peuvent vous aider. Il y a des gens chez qui la chirurgie bariatrique c'est nécessaire et des fois selon l'état de stress qu'on met là-dessus, puis c'est ce que vous semblez me dire ou me témoigner. Mm-hmm. Quand on se sent stressé par notre condition, puis qu'on voit ça comme une montagne, ça se peut que psychologiquement, vous soyez un candidat à la chirurgie et que ce soit pour vous quelque chose d'important. Il faut le considérer. Ça, c'est quelque chose là à discuter avec votre médecin. Puis avec les nouvelles lignes directrices d'Obésité Canada qui sont sorties chez l'adulte l'été dernier, tous nos médecins là maintenant là, ils ont plus d'excuses, là. ils peuvent plus là juger leurs patients parce que on sait qu'il y a des études qui ont prouvé qu'on jugeait dans le temps nos patients qui souffraient de cette maladie, mais maintenant on leur a fourni des outils vraiment très sensibles, très humains pour accompagner leurs patients, que ce soit par une modification de leurs habitudes de vie, une consultation en psychologie parfois est nécessaire chez les gens qui souffrent d'hyperphagie alimentaire. Et il y a d'autres candidats, d'autres patients qui, pour eux, la voie de la chirurgie bariatrique est vraiment une bonne solution.
Bon, ben, je vais considérer ça, bien sûr. Mais ça me stresse pas tant parce que je prends un verre de vin ou deux, puis ben, je l'oublie. Fait que le stress diminue.
Oubliez non. pas, on parle beaucoup du sucre dans ce livre-là, puis malheureusement, le vin contient beaucoup de sucre et peut faire une différence dans notre tour de taille.
La vodka, c'est correct? Bon, je vois.
Ben, écoutez, tous les alcools contiennent du sucre.
Hey, docteur Saint-Pierre, mais j'ai une question d'une auditrice aussi qui est fort intéressante, puis le temps nous bouscule, mais... quand on essaie de bien cuisiner pour nos enfants, là, puis ça fait comme ça, c'est que les aliments qui sont bons pour leur santé, souvent goûtent la marde, là, je pense au brocoli, entre autres. Non, mais je veux pas exagérer, mais c'est. Non, mais essayez.
Non,
non, mais sérieusement, avec des enfants, là, propose-leur des assiettes santé. Puis je le sais que c'est un cheminement, puis c'est des habitudes. Moi, là, chez nous, là, ils se mangent peu de fruits et de légumes. Mes parents m'en ont jamais fait manger, à part du blé d'Inde dans le pâté chinois, patates. Puis des patates.
Non, mais c'est ou vrai. Les petits mélanges surgelés à l'époque, là. Mais c'est une excellente question. Puis en fait, vous correspondez à ce que j'appelle mes petits mangeurs difficiles. Et il y a tout un chapitre là-dessus. Puis souvent, quand un parent me dit mon enfant mange aucun légume, il aime pas ça, il va bouder. Bon, ben je dis, et vous, est-ce que vous en mangez?
Non.
On est des modèles, OK? Puis il y a moyen de leur faire découvrir des choses. Déjà en donnant un choix à un enfant, en disant, veux-tu le goûter cru ou cuit? Ça, c'est un nouveau. On va mettre des épices créoles dessus ou mexicaines. On va les faire retirer un peu au four. Il y a plein de façons de faire aimer les fruits et les légumes à la population. C'est vraiment, pour certains, ça devient un jeu. Juste avoir un petit plan de tomates à un enfant en bas âge qui veut pas en manger, il va tellement être fier d'avoir fait pousser des tomates qu'il va y goûter. C'est parfois dire aussi que la cuisine est fermée. Tu veux pas ça? Pas de chicane dans la cabane. Tu vas continuer à jouer puis tu reviendras quand t'as faim. Mais là, on donne pas un petit yogourt puis un petit fromage puis un petit verre de lait parce qu'on a peur qu'il meure de faim, là.
Non, quand
il revient nous voir, on représente le légume en disant, voilà.
Mais dans mon
c'est ça
cas,
qui est à manger.
Moi, j'ai bien compris votre message. Dans mon cas, c'est qu'il faut que je lui trouve un autre modèle.
Ben, en fait, faut peut-être que vous sortez un petit peu plus. Là, tu sais, il y a tellement d'épiciers à Québec. Tu sais, j'ai passé 18 ans de ma vie à Québec. Là, il y a plein d'endroits où est-ce que les fruits, tu les regardes, sont beaux. Tu as envie de les découvrir. L'été, il y a le marché. Il y a dans le port. C'est les odeurs, les il y a moyen d'avoir de la gastronomie santé. Une de celles-là à Québec, c'est Annie Ferland, la docteure en pharmacie et nutritionniste. Sur son blog, Annie, Science et Fourchette, retenez ça, elle a plein d'idées pour manger mieux et manger intuitivement, se faire plaisir. Quand on veut, là, oui, c'est là où est-ce qu'on peut. Puis remplacer une heure d'écran par jour par une heure de consultation à trouver des choses que vous auriez le goût d'essayer de cuisiner, ça se planifie la cuisine. Et il faut pas avoir de stress. On se donne des petits objectifs à la fois et on peut vraiment avoir du fun à faire la cuisine ensemble. Julie Perrault me faisait rire, la comédienne, parce que dans une émission de télé cette semaine, elle disait, moi je demande à mes enfants même de me donner une cote selon la recette, puis s'ils sont pas contents, je leur dis d'aller sur le site puis de le dire à celui qui a proposé la recette.
Ouais, puis ben nous, je le racontais, mes auditeurs sont au courant, hein, on a fait ça à cause de la pandémie, on a fait des soupers presque parfaits à la maison où ils ont dû eux aussi préparer leur souper. Ça a été une des plus belles expériences des 10 dernières années chez nous. C'est que
on doit ramener le plaisir autour de la table, fermer vos écrans, fermer la télé quand on mange. C'est, on prend le temps de discuter avec les gens qu'on aime. Donc, c'est sûr que vous allez en retirer un plaisir. Puis, on mange 3 fois par jour pour le restant de nos jours. Donc, on peut pas aborder la question de la nutrition de façon négative. Ça fait pas de sens.
Alors, plusieurs m'ont demandé le titre du livre. Ça s'appelle « Redonner la santé à toute la famille, l'approche 180 contre l'obésité » du docteur Julie Saint-Pierre. Docteur Saint-Pierre, merci d'avoir partagé. Et je vous garantis que je vais me procurer le livre parce que je dois modifier certaines choses avant de me faire opérer. Mais je dois tenter certaines modifications et pas scraper la vie des deux grands jeunesses.
Oui, mais c'est un livre très positif, je suis certaine. Puis s'il vous plaît, redonnez-moi des nouvelles.
Promis, docteur Saint-Pierre.
Merci, au revoir.
Au revoir. Et à tous nos auditeurs qui nous regardent sur Twitch, là, c'est pas parce qu'il y a Barry de PFK dans le studio qu'on mange du poulet frit.
Non, c'est un chapeau, on l'a dit tantôt.
Oui, oui, non, puis c'est pour piger nos gagnants quand on fait des concours. Exact. Mais on trouve que les couleurs du PFK sont belles, mais non à propos.
Pierre, avec un chandail, man.
Dire, si j'ai, oui, Pierre. Ouf,
c'est beau, c'est un beau logo.
Aujourd'hui, t'as un beau hoodie.
Mais tout est une question d'habitude, tout est une question de d'effort et dans ce livre-là, puis je lisais les parents qui écrivent, puis c'est vrai, tu sais, on veut être des bons parents, mais en même temps, des fois, on n'a pas toutes les connaissances et ce qu'il faut pour être sur le bon chemin.
La petite trempette avec les légumes, c'est-tu bien grave, ça?
Ça dépend.
C'est l'accumulation des trempettes.
Non, tu sais quoi? C'est une belle façon de commencer.
Ben oui, c'est ça que je pense, que c'est une façon de commencer.
Si c'est la trempette que ça te prend, ou du ketchup pour que t'aimes le maudit brocoli à marde, ben, mazin!
Mais j'imagine, mettons,
tu deviendras pas porte-parole du brocoli, toi.
Non!
Maudit brocoli à marde. J'imagine juste la personne qui trempe, mettons, une cuillère à table de trempette, mange la moitié de la carotte, retrempe une cuillère à table.
Non, c'est ça, je comprends.
À ce moment, je vais le faire des carottes avec la... Il me reste de la sauce brune du PFK, là. Je vais faire ça.
Oui, monsieur.
Mais c'est vrai que quand les gens cuisinent mal le légume, ça peut être plate comme expérience. Un chou de Bruxelles, là, c'est un des meilleurs légumes, je trouve.
En quelle année, ça?
Maintenant et toujours. Mais au four rôti avec du sel, poivre puis de l'huile d'olive, tu me fais bouillir ça.
Bob Bissonnette me racontait, là. Bob Bissonnette, il joue au hockey junior majeur à Gatineau, à Hull, pour les Olympiques de Hull. Et il est dans une famille de pension. Puis, il avait demandé au directeur général de l'équipe de le changer de pension.
Tu en ris?
Puis, c'était pas, c'est pas méchamment, mais la pension où ils étaient, c'était des gens adorables, gentils, puis, mais...
Ils mangeaient des légumes, eux autres?
Non. Non, OK. Pantoute, c'est ça. Hey, Bob, il faisait très attention à ce qu'il mangeait.
Ah oui?
Il dit, il y avait rien que ça dégoulinait pas le gras. Il dit, même le chien te faisait de l'embonpoint dans la maison. Non, sérieux. Il dit, c'est impossible que donc on flirte avec le fille.
Mettons, il faisait frire des tomates, là, comme en Nouvelle-Orléans, puis c'est comme, pardon.
Et moi, je me souviens, il m'a parlé des assiettes de steak haché qu'elle faisait. Là. Il dit, ça flottait dans le gras. Tellement c'était gras.
Il faut que ça goûte.
Mais, tu sais, d'une famille de pension, moi, je sais pas comment ça marche aujourd'hui, si c'est les familles qui cuisinent pour les joueurs.
Ouais, mais c'est plus contrôlé. Les joueurs, c'est des meilleurs athlètes que dans le temps. Là.
Fait que, puis j'imagine que peut-être que l'équipe donne des menus ou des façons de faire. Je sais pas trop, là, mais.
Ils ont des services, c'est sûr.
C'est ça. Mais, tu sais, à cette époque-là, quand tu dis, faut que tu demandes de changer de famille de pension parce que ça dégouline le gras. C'est pas beau, là, tu sais, c'est dommage où tu ris, mais... OK, on va s'arrêter parce qu'on a accumulé un peu de retard pendant que le... mon truc de pompier de rêve qui passe! Tu sais, le gars qui chauffe le cul, là, il passe, il vient de passer avec les flashs, là, ça rouge.
Mais en pandémie, tu vas peut-être le faire, hein?
C'est vrai?
Ah oui, je suis en contact avec Bill Noonan.
Mais si jamais on cherche un autre nom pour l'émission, on pourrait s'appeler ça Dupont en retard.
Place Laurier, pompiers,
pas, mais c'est
les pompiers seraient déjà à Place Laurier.
Oh.
Donc, le truck avec le trailer, le gars qui chauffe à l'arrière, là, ils s'en vont là probablement. Donc, que se passe...
Quel est possible, hein?
Quel est possible à s'en aller à Place Laurier à cette heure-ci?
Et pour Bois-Châtel, j'ai regardé, puis j'ai appelé la sûreté. On n'a pas de carte d'appel, donc la personne qui nous a écrit ça, on est toujours
on
en attente.
On ne sait pas. Puis Timonier, ce que ça s'appelle, le truck de pompiers en question. On vient!
Top.